La matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour faire le plein d'infos, de musique et de bonne humeur. Oui, sourire. Sourire à la vie, c'est à mon humble avis la plus belle des conduites que l'on peut avoir en ce jour particulier, 13 novembre 2015. Une date à jamais gravée dans nos mémoires, dans notre chair, 130 victimes que nous n'oublions pas, 130 personnes comme vous et moi, fauchées alors qu'elles s'amusaient ou travaillaient. Soyons fiers les amis, soyons fiers d'être français, fiers de ce que nous sommes, battons-nous pour le rester, mais battons-nous le sourire aux lèvres. C'est à mon sens le plus beau doigt d'honneur que l'on puisse faire à la haine et à l'obscurantisme.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. C'est beau, la vie.
Bonjour Omeline Roche.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Que va-t-on écouter dans votre partition à 6h-10?
Un groupe français indissociable du répertoire pop et rock de nos années 80 et 90. Une carrière d'à peine 10 ans, figurez-vous, on va retourner au commencement, quand la chanteuse Muriel Moreno n'est pas encore rousse. C'est Niagara.
Niagara ce matin sur Europe 1, donc à 6h-10. Et si acheter d'occasion vous permettait de faire baisser vos impôts, c'est en tout cas la proposition de plusieurs patrons de grandes entreprises comme celui du Bon Coin ou de la Camif qui souhaitent inscrire cette idée dans le projet de loi d'économie circulaire actuellement discuté au Parlement. Leur idée est très simple, accorder un crédit d'impôt de 15% aux acheteurs de tout type de produits de seconde main, hein, que ce soit des vêtements, de l'électroménager ou encore des jouets. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un crédit d'impôt pourrait vous inciter à moins consommer et donc à moins polluer? J'attends vos réponses au 39-21. Venez réagir en direct sur Europe 1. Le standard est ouvert, les amis. Votre pressing dans une vingtaine de minutes, le meilleur de la presse, avec au menu ce matin un beluga qui joue au rugby. Non, ce n'est pas mignon, c'est triste. La nouvelle vie gâchée de celle qui a dénoncé le cerveau des attentats du 13 novembre et une femme à la tête du Financial Times. Vous allez me dire oui, bon, bref. Mais vous allez voir, c'est important. Mais avant que nous réserve le ciel de ce mercredi, la météo avec vous, Laurent Cabrol, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour Omeline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Ce matin, les nuages et les brumes, les brouillards sont très nombreux sur la France, autant dire que l'humidité est à son comble. Bien sûr, dans la mesure où nous avons vu ces jours derniers beaucoup de pluie, aujourd'hui les pluies seront quand même un petit peu plus, disons, un peu plus discrètes. Elles vont se concentrer cependant sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, et ce soir sur la Bretagne, mais partout ailleurs, nous aurons des nuages qui pourront donner quelques rayons de soleil. Des températures entre 7 et 12 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol et à tout à l'heure. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal, la matinale d'Europe 1. C'est parti.
Europe 1, il est 5h.
J'espère qu'on peut complètement se réparer, mais pour mes enfants et moi, le 13 novembre, il se répète tous les jours.
L'impossible guérison des rescapés et des proches des victimes plaît toujours béante 4 ans après les attentats du 13 novembre. Témoignage dans ce journal.
4 ans après où en est l'enquête, la justice française a clos les investigations le mois dernier. Nous ferons le point.
Dans ce journal, 450 000 euros à rassembler pour sortir Patrick Balkany de prison. Décision sur sa seconde demande de remise en liberté annoncée ce matin, mais il y a une caution à payer et la cagnotte ne fait pas recette.
Ça me scandalise qu'il n'y ait pas eu plus.
Vous avez donné combien, vous ?
1 mois de ma retraite.
C'est-à-dire ?
500 euros.
Les nouvelles accusations de viol contre Roman Polanski font monter la tension autour de son dernier film qui arrive en salle aujourd'hui. Hier à Paris, des féministes ont manifesté devant un cinéma provoquant l'annulation de la séance.
Et puis le chanteur au bandana rouge est de retour.
Les animaux, les petits chats.
À découvrir en fin de journal, Les Animaux. Oui, premier single du prochain album de Renaud à paraître le 29 novembre. Des chansons sur l'enfance.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Julien Pierce, Jérôme Lacroix.
Chaque année, une épreuve renouvelée. Nous sommes le 13 novembre et la France se souvient des pires attentats jamais perpétrés sur son sol. 130 morts à Paris et Saint-Denis en 2015. 4 ans plus tard, la plaie reste vive pour les rescapés et les proches des victimes.
Témoignage ce matin. Témoignage de Caroline Jolivet. Son mari figure parmi les 90 victimes du Bataclan.
Le psychique, il s'en fout de que ça fasse 4 ans ou 2 mois. Pour mes enfants et moi, le 13 novembre, il se répète tous les jours parce que mon mari, leur père, il n'est pas là chaque jour. Donc c'est une violence chaque jour de vivre avec cette absence. On apprend beaucoup de ce que lui a donné parce qu'il était profondément vivant. Même dans son absence, c'est lui qui m'aide le plus. J'espère qu'on peut complètement se réparer, mais on atténue la souffrance et aussi laisser un peu de place à des moments de rire et de... Parce qu'il y en a. Quand mes enfants et moi, on marche sur le chemin de l'école et qu'on s'extasie devant les escargots et les fleurs, c'est tout ce qui nous intéresse parce que je pense que eux comme moi, on sait en fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte. On savoure aussi chaque moment de douceur et en fait, moi, je n'aspire que à ça maintenant. Recevoir de la douceur et en transmettre. Le reste, j'en ai pas besoin, j'en veux pas.
Témoignage très humain recueilli par Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Des cérémonies d'hommage sont prévues tout au long de la matinée à Saint-Denis, puis à Paris, en présence notamment d'Anne Hidalgo et de Christophe Castaner.
Et puis, 4 ans plus tard, il y a l'enquête 1700 parties civiles selon le parquet antiterroriste. Les juges ont terminé leur travail. Le 21 octobre dernier, ils signifiaient la fin des investigations. Le point avec Guillaume Bier.
Une enquête hors norme pour des attentats sans précédent en France. Une enquête aujourd'hui terminée après 4 ans d'investigation qui s'étale sur près d'1 million de pages de procédure. Le mois dernier, les juges parisiens ont annoncé la clôture du dossier, l'une des dernières étapes avant un futur procès que les 350 blessés et les familles des 130 morts attendent impatiemment. Connaître la vérité, comprendre quel rôle ont joué les 14 suspects mis en examen, dont le principal, Salah Abdeslam, seul membre des commandos terroristes encore en vie et toujours détenu à l'isolement à Fleury-Mérogis. Dans ce dossier tentaculaire, les juges français se sont aussi appuyés sur le gros travail de leurs homologues belges, tant les ramifications sont nombreuses. À Bruxelles, les magistrats antiterroristes ont fourni tous les éléments en temps et en heure pour que la France puisse boucler le dossier. Mais les Belges continuent l'enquête de leur côté pour remonter la provenance des armes. Quant aux commanditaires du groupe État islamique, ils font l'objet d'une autre procédure parallèle, même si depuis, les deux principaux leaders terroristes ont été tués.
Les précisions de Guillaume Bier.
Et le procès de ces attentats du 13 novembre pourrait se tenir en 2021. Aujourd'hui en France, la menace terroriste est moins élevée, mais elle est toujours forte.
Europe 1, il est 5h04.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, condamne fermement les violences survenues lors de manifestations étudiantes hier à Paris et notamment la dégradation de la grille d'entrée de son ministère. Les manifestants entendaient dénoncer la précarité des étudiants.
Incident également à l'université de Lille, où une conférence de François Hollande a dû être annulée. Plusieurs exemplaires du livre que l'ex-président venait présenter ont été arrachés. C'est un reportage exclusif qu'Europe 1 vous propose ce matin. Nous avons pu entrer à l'intérieur de la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche. Elle est à l'arrêt après le séisme qui a touché lundi une partie de la vallée du Rhône.
Des vérifications de sécurité sont en cours. Nous les avons suivies. Reportage dès le début du journal de 5h30. Au Teil, commune ardéchoise la plus touchée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur place hier a promis des aides de l'État. Les dégâts matériels sont considérables.
Des dizaines d'habitants ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Ils ont encore passé la nuit dans un gymnase. Les autorités promettent des relogements rapides, mais la réalité semble plus complexe, comme l'a constaté sur place Nathalie Chevance.
Ne pas rester chez soi tant que l'expert n'est pas passé, voilà la consigne de la mairie pour les quelques 200 sinistrés dont les maisons sont trop fissurées. Situation subie par Françoise, mère de 4 enfants, épuisée, qui a trouvé refuge à l'hôtel.
On n'a pas le droit de rentrer pour l'instant, d'après ce que les pompiers nous ont dit. Après, on attend que quelqu'un passe pour nous dire si on peut rentrer ou pas. Mais apparemment, vu les fissures qu'il y aurait, tout ça, ça ne serait peut-être pas possible.
Vous avez pu récupérer des affaires ?
Pas encore. Je suis habillée comme hier. Il faut faire quelque chose, surtout pour nos enfants. Ils veulent avoir leur chambre, ils veulent avoir leurs jouets, ils veulent avoir leurs affaires.
Être patient en attendant que les autorités trouvent des solutions pérennes, Yann, père de famille, n'est pas très optimiste.
On est sur des listes d'attente apparemment, vu que moi je suis une famille nombreuse. Mais là, pour l'instant, on se débrouille chacun comme on peut. Il faut qu'on reloge les gens, oui. Mobilhome, hôtel, là partout ils vont avoir de la place. Et vu que le taille c'est pas grand, il ne va pas y avoir beaucoup de place. Hein.
Ce que confirme le maire Olivier Peverelli face à un chantier immense.
Je me dis, je ne sais pas comment on va faire pour reconstruire. C'est des millions d'euros. Hein. L'urgence, c'est de reloger les gens. Et tant qu'on est dans un gymnase, ce traumatisme, il va rester encore prégnant.
Un fonds de solidarité est déjà en place pour récolter de l'argent et les communes limitrophes s'apprêtent elles aussi à reloger certains sinistrés. Le Teil, Nathalie Chevance, Europe 1.
Plus d'une tonne de cocaïne désormais saisie par les autorités. La marée blanche continue de déferler sur la façade atlantique des Landes au Finistère. Les causes de ces arrivages de ballots de drogue restent inconnues.
Vaut mieux pas boire la tasse. Vous vous êtes peut-être imaginé ces derniers temps faire vos courses dans votre supermarché après 21h. Eh bien, oubliez, un texte en faveur de l'ouverture des commerces alimentaires jusqu'à minuit devait être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce texte, eh bien, a disparu de l'ordre du jour.
Le gouvernement annonce une nouvelle concertation pour au moins 6 mois. C'est donc un report, décision de dernière minute, parce que sujet ultra sensible, Olivier Samin.
autoriser le travail jusqu'à minuit dans les magasins alimentaires, moyennant des contreparties pour les salariés. Voilà ce que le gouvernement voulait faire passer au Conseil des ministres, avec un double argument. Les habitudes de consommation évoluent et beaucoup de supérettes ouvrent déjà jusqu'à 22 heures dans les grandes villes de manière illégale. Autant encadrer ces pratiques en leur imposant, en échange, des heures payées doubles pour leurs salariés, un repos compensateur et le recours au strict volontariat. Officiellement, le ministère du Travail ne perd pas de vue le projet, mais il souhaite se donner plus de temps, d'où les 6 mois de concertation supplémentaire annoncés hier. Le chef de file de la CGT Commerce, Amar Laga, voit dans cette décision un recul dont il se réjouit, recul qui, pense-t-il, n'est pas étranger au contexte social chargé de cette fin d'année.
Je pense que le gouvernement a peur tout simplement parce qu'il y a une date dans notre pays qui est le 5 décembre. Et le Premier ministre a dû se dire stop, on arrête les dégâts, on a allumé plusieurs feux là, on va se calmer un peu et on verra plus tard.
Plus tard, mais la réforme verra bien le jour, assure l'entourage de Muriel Pénicaud. Réforme qui, promis, ne sera pas moins-disante sur le plan social.
Les explications d'Olivier Samin pour Europe 1.
À Oberhofen, dans le Bas-Rhin, l'homme soupçonné d'avoir mortellement poignardé sa femme est en prison, détention provisoire. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Par ailleurs, l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, ouvre une enquête après que la fille de la victime a estimé que les gendarmes avaient mis trop de temps à intervenir.
La justice va-t-elle autoriser Patrick Balkany à sortir de prison? Réponse tout à l'heure, à 9h, à la Cour d'appel de Paris, 2 mois, tout juste après que le maire de Levallois, Perret, a été incarcéré, condamné notamment pour blanchiment de fraude fiscale.
Problème, même si la demande de remise en liberté est acceptée, Patrick Balkany ne pourra pas sortir tout de suite. Il y a une caution de 500 000 euros à régler. Une cagnotte a été lancée, mais à peine 10% de la somme a été récoltée. Reportage à Levallois, Perret, Pauline Jacquot, auprès d'habitants divisés sur la question.
Si toutes les personnes qui ont plus de 60 ans qui reçoivent 4 cadeaux, combien 4 cadeaux par an, mais ils ne sont même pas venus déposer une petite somme de rien du tout.
Ishaï attend l'ouverture de la permanence de soutien à Patrick Balkany. Il vient d'apprendre le montant de la cagnotte, 50 000 euros.
Ça me scandalise qu'il n'y ait pas eu plus.
Vous avez donné combien, vous ?
1 mois de ma retraite.
C'est-à-dire ?
500 euros.
De son côté, Catherine, levalloisienne depuis 20 ans, a donné 200 euros à l'association.
Moi, j'ai envie qu'il sorte parce que c'est un très bon maire. C'est quelqu'un qui fait énormément pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les familles. C'est de l'acharnement politique, c'est tout.
Il reste encore à trouver 450 000 euros. 6 chiffres toujours à l'esprit d'Isabelle Balkany, assise derrière son bureau au rez-de-chaussée de la mairie de Levallois.
Je suis quelqu'un de pragmatique. Alors, je fais... Et puis, j'ai atteint un âge où on ne fait plus beaucoup de rêves. Si vous avez une solution, je suis tout à fait preneuse.
Scandaleux, ahurissant, l'initiative de cette cagnotte ne fait pas rire du tout Antoine.
C'est même pas un sujet personnel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fraudé. Point final, il a fait quoi? Il a fait avec l'argent des Levalloisiens. Je trouve ça honteux de donner de l'argent pour quelqu'un qui a fraudé. C'est...
Être gentil ne justifie pas tout, sourit Sophie. Je pense qu'aujourd'hui, dit-elle, il y a peut-être des causes un peu plus utiles.
Le reportage signé Pauline Jacquot pour Europe 1.
Les récentes violences en Bolivie ont fait 7 morts, annonce le parquet bolivien. La sénatrice Janine Agnès se proclame présidente par intérim pour organiser un scrutin présidentiel, un acte qualifié de coup d'État par Evo Morales, président démissionnaire réfugié au Mexique.
Et puis l'Australie en proie à de violents incendies, une cinquantaine de maisons détruites et des centaines d'hectares ravagés à quelques kilomètres de Sydney. Les vents violents et les températures caniculaires compliquent la tâche des pompiers.
Europe 1, il est 5h11, la suite du journal, Julien Pierce, Jérôme Lacroix.
Polanski, violeur, public, complice, ce que scandent ces quelques dizaines de féministes devant le cinéma Le Champeau dans le quartier latin à Paris. Devait s'y tenir l'avant-première de J'accuse, le dernier film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus. Face à la montée de tension avec ceux qui désiraient voir le film, la séance a été annulée.
Parce que le réalisateur est visé par une nouvelle affaire de viol, son film sort aujourd'hui. Les accusations réfutées par Polanski pourraient-elles nuire au long métrage? Élément de réponse avec Mathieu Charrier.
J'accuse sort aujourd'hui sur 520 écrans. Une salle française sur 10, c'est beaucoup. Et surtout, aucun exploitant de salle n'a déprogrammé J'accuse depuis les allégations de Valentine Monnier. Hors micro, l'un de leurs représentants explique même que Roman Polanski n'est ni mis en examen et encore moins condamné. Et que ce n'est pas au directeur de salle de jouer les juges. Déprogrammer le film reviendrait selon lui à de la censure. Même position du côté de la RP, la société civile des réalisateurs et producteurs, dont fait partie Polanski depuis 8 ans. Son bureau s'est réuni hier pour rédiger un communiqué expliquant que la RP proposera au conseil d'administration que désormais tout membre condamné par la justice pour infraction sexuelle soit exclu et que tout membre mis en examen soit suspendu, deux conditions qui ne sont pas applicables à Roman Polanski puisque les faits dont il est accusé sont prescrits, circulés donc. C'est aussi la position de Gaumont qui reste muet et qui a fait modifier l'interview de Polanski dans le dossier de presse qui accompagne le film. Dans sa première version, distribuée au Festival de Venise, Polanski s'y comparait à Dreyfus, phrase gommée dans la version finale. Enfin, l'équipe du film renvoie désormais au public, c'est lui qui jugera, rappelant que les avant-premières affichent presque toutes complètes.
Les informations de Mathieu Charrier pour Europe 1.
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout.
Les animaux, oui, premier extrait du prochain album de Renaud. Alors ce titre, les animaux, mot enfantin, voilà qui donne le ton. Un disque, pas pour les enfants, mais sur l'enfance. L'album complet, les mômes et les enfants d'abord, sort le 29 novembre.
J'aime tout, les animaux, de l'arche de Noé.
C'était les journaux de Jérôme Lacroix.
les journaux,
oui. Europe 1, il est 5h13.
On passe au sport avec toujours Jérôme à la une. Jérôme, des grandes dames.
C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié hier les championnes du monde de tennis, les Françaises victorieuses dimanche de la Fed Cup en Australie. Elles étaient reçues hier soir à l'Elysée. Kristina Mladenovic, principale actrice du succès, toujours chamboulée.
C'est un rêve en plus. C'est vrai que j'y pensais pas forcément que ça viendrait avec des performances sportives et c'est juste fou là, tout ce qui se passe depuis plusieurs heures, plusieurs jours, on est toutes sur un nuage.
Des propos recueillis par Axel May. Les résultats du Masters de Londres, le tournoi final chaque fin de saison, Dominic Thiem qualifié pour les demi-finales après Roger Federer, l'Autrichien a battu Novak Djokovic hier soir lors d'un match vraiment palpitant et victoire de Thiem 6-7, 6-3, 7-6. Demain, l'affrontement entre les deux colosses, Novak Djokovic contre Roger Federer pour une place dans le dernier carré.
Le chiffre du jour.
Un an de plus au sein de l'écurie de Formule 1 Toro Rosso pour le pilote français Pierre Gasly. La récompense des bons résultats du Normand de 23 ans, arrivé dans le top 10 lors de 5 Grands Prix l'année dernière. Pierre Gasly a en revanche été jugé un peu trop juste pour réintégrer l'écurie reine de ce groupe, c'est Red Bull. Red Bull dont il avait été éconduit en début d'année dernière.
Voilà, en tout cas une bonne nouvelle pour le clan tricolore en Formule 1. Merci Jérôme Lacroix et à tout à l'heure.
Europe 1, 5h14.
Et à 5h14, c'est l'heure de miser sur le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Angers et mon pari gagnant sera le 201 Visage. Très bien née, cette fille du crack étalon Galiléo s'est imposée à 3 reprises pour 6 tentatives. Elle va se présenter sur 3000 mètres, une distance qu'elle n'a encore jamais abordée, mais son pédigré est garant d'une tenue à toute épreuve, mais aussi d'une aptitude certaine au terrain lourd. Dès lors, cette magnifique pouliche alsane mérite un très large crédit. Notez bien, pour cet après-midi à Angers, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1, Visage.
C'est noté, merci Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Europe 1.
Allez, dans un instant, c'est votre pressing. Vous le savez, c'est la revue de presse en mode zapping. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h16, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
La France plongée dans le souvenir des attentats du 13 novembre, des cérémonies d'hommage sont prévues tout au long de la matinée à Saint-Denis puis à Paris, en présence notamment d'Anne Hidalgo et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, condamne fermement les violences survenues lors des manifestations étudiantes hier à Paris et notamment la dégradation de la grille d'entrée de son ministère. Les manifestants entendaient dénoncer la précarité des étudiants. Et puis à Oberhofen, dans le Bas-Rhin, l'homme soupçonné d'avoir mortellement poignardé sa femme est en prison, détention provisoire. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Par ailleurs, l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, ouvre une enquête après que la fille de la victime a estimé que les gendarmes avaient mis trop de temps à intervenir.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Le pressing, le meilleur de la presse, raconté par Omblin Roche et Paul Lassen. Bonjour les amis, bonjour,
bonjour
Paul.
Bonjour à tous les deux, bonjour. Bonjour.
Omblin, oui. Comme d'habitude, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin?
C'est aujourd'hui en France qui revient sur la vidéo tournée en Norvège. Vous savez où on voit un beluga qui rapporte un ballon de rugby lancé par des touristes depuis leur Zodiac. C'est une vidéo qui est virale depuis le week-end dernier. C'est ce même beluga qui avait été découvert au printemps dernier près d'un bateau de pêche norvégien équipé d'un harnais siglé équipement de Saint-Pétersbourg. On avait parlé sur Europe 1, vous souvenez peut-être qu'à ce moment-là, on se demandait s'il n'avait pas été entraîné par l'homme dans le cadre d'un programme militaire russe. Autre hypothèse, la baleine se serait échappée d'un parc aquatique. En tout cas, cette vidéo ne serait pas aussi attendrissante que ça quand on analyse véritablement le comportement de l'animal, nous dit l'association One Voice. C'est une association qui lutte pour les droits des animaux, car il n'y a pas de beluga dans cette région, et le fait qu'il soit seul, alors que ce sont des animaux sociaux, est problématique. A priori, il ne saurait pas se nourrir, d'où sa présence autour des bateaux. La présidente de One Voice accuse l'association norvégienne qui est censée le protéger de maintenir ce contact avec l'homme, ce qui l'empêche de retourner à l'état sauvage. Alors évidemment, dans tout cet article, l'association One Voice cible les parcs aquatiques du monde entier. Le quotidien donne aussi la parole à l'association de défense de l'environnement Robin des Bois, qui nous dit que les belugas capturés au large de la Russie se vendent près de 230 000 euros. Donc il y a un trafic qui existe. Hier, on parlait de la ville de Paris qui pourrait interdire les animaux sauvages des représentations de cirque. Eh bien, la présence des mammifères marins dans les parcs aquatiques va sans doute, à son tour, être prochainement au centre des débats, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France.
C'est aussi un problème qui illustre ce monde qui change, notre rapport aux animaux qui, évolue. On souhaite, revient en quelque sorte à la normale, après les avoir exploités. Ainsi. Voilà, j'en perds mes mots.
Merci. Aujourd'hui
beaucoup,
en France. Non, c'est très intéressant à lire. Vraiment.
C'est effectivement très intéressant. On regardera cette vidéo avec un autre regard.
Exactement.
Paul, je me tourne vers vous.
Ce matin, le Parisien nous raconte l'histoire de Sonia. Nous sommes le 16 novembre 2015. Trois jours après les attentats de Paris, les forces de l'ordre sont à la recherche d'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des tueries. Et c'est grâce au témoignage de cette jeune femme que le terroriste sera retrouvé dans un appartement de Saint-Denis. Un témoignage capital qui vaudra à Sonia, pour la première fois en France, d'obtenir le statut de témoin protégé, un statut mis en place avec la loi renforçant la lutte contre le terrorisme.
Comme c'est le cas aux États-Unis, un peu.
Comme c'est le cas aux États-Unis, absolument. Changement d'identité, donc déménagement régulier, indemnité mensuelle, tout est mis en place pour que Sonia survive. Sauf que depuis 4 ans, sa vie a plongé dans un profond désarroi, explique son avocate. Sa vie, mais aussi celle de son entourage proche, également protégée. Car ce changement de vie implique aussi la disparition totale de la vie d'avant. Le lieu de naissance change et tout disparaît. Plus aucune filiation n'existe, plus aucune trace du passé non plus. Une difficulté psychologique doublée d'une schizophrénie administrative. Avec une simple carte d'identité, Sonia doit parfois se balader avec ses anciens papiers parce que la carte d'identité ne suffit pas. Un membre de sa famille, lui aussi, a eu la mauvaise surprise d'être déclaré mort aux yeux de l'administration, une mort qu'il a apprise en se rendant à l'hôpital pour un simple contrôle. Même casse-tête pour les enfants, difficile de trouver un nouvel établissement quand les bulletins scolaires des années précédentes n'existent plus. Impossible également pour Sonia de retrouver un emploi, plus de passé professionnel à justifier, et l'insertion promise par l'État tarde à arriver. Une situation à laquelle s'ajoute des relations assez compliquées avec son service de sécurité qu'elle aimerait parfois un peu plus laxiste pour avoir un peu plus de liberté. Sonia éprouve de la culpabilité vis-à-vis de ses enfants à qui elle impose cette double vie, mais à aucun moment elle n'a regretté sa démarche, conclut son avocate dans ce dossier à lire dans Le Parisien ce matin.
C'est effectivement un article passionnant à lire, qui est effrayant, en tout cas au sujet de cette femme à qui l'on doit beaucoup, en tout cas pas cette capture puisqu'il a été tué, mais à qui l'on doit la fin de cette vague d'attentats du 13 novembre. Merci beaucoup Paul Lassen. Les amis, est-ce que vous savez qui est Roula Ralaf?
Comme ça, non, là.
Ouais, c'est normal.
Ça roule beaucoup l'air.
Ouais, absolument. Ouais. C'est un nom que adorerait prononcer Mathieu Béliard. Eh bien, ça va changer grâce au Figaro. On l'apprend ce matin. C'est une journaliste libanaise qui vient d'être nommée directrice de la rédaction du Financial Times, le prestigieux quotidien économique britannique. Alors là, vous me dites, il est gentil, le garçon. Mais bon, c'est pas très intéressant comme info. Eh bien, détrompez-vous, car c'est la première fois en 130 ans d'existence que le Financial Times est dirigé par une femme. Or, le FT, comme on le surnomme, c'est la bible des financiers, des traders et banquiers de la City, de la Défense ou d'ailleurs. Des hommes et encore des hommes. Autant dire que c'est courageux parce que 80% du lectorat du Financial Times est masculin. Donc c'est courageux d'avoir nommé une femme à la tête de ce journal qui transpire la testostérone façon Gordon Gekko. D'ailleurs, le FT n'a pas attendu d'avoir une femme à sa tête pour opérer quelques changements salutaires. Depuis l'année passée, au moins un quart des tribunes publiées dans la rubrique Opinion sont écrites par des expertes. Un logiciel prévient également les journalistes quand ils ne citent pas de femmes dans leurs articles ou quand la une du site ne montre que des hommes en costume cravate. L'idée derrière tout ça est double. Ce n'est pas uniquement une réaction à la vague MeToo. Non, il y a aussi un intérêt économique. Féminiser le FT, c'est toucher un nouveau public, donc potentiellement plus de lectrices, donc plus d'abonnements. Et puis il y a aussi un aspect politique. Et c'est là où ça devient, je trouve, particulièrement fin et intéressant. Mettre des femmes en avant, c'est promouvoir de nouvelles idées, peut-être. En tout cas, c'est mettre en lumière une autre sensibilité. Et elle est bienvenue. Cette nouvelle sensibilité dans un univers qui est quasi exclusivement masculin. On a tous pu constater les dégâts que peut provoquer un système financier qui transpire un peu trop la testostérone. Merci à vous, merci. Les amis. C'est terminé pour ce pressing. Et je vous dis à demain.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, c'est les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger. On va aller prendre des nouvelles de notre boulanger niçois. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h24, c'est les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour à tous.
Comment ça va Frédéric?
Bah écoute, en pleine forme.
Tant mieux, merci Frédéric d'être en ligne avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes boulanger à Nice et boulanger qui, je crois, gonfle le torse ce matin. Vous êtes un ardent défenseur de la viennoiserie artisanale, on en a déjà parlé. Et on m'a dit que vous venez de remporter une jolie victoire. Racontez-nous.
Oui, en victoire. Disons que si je faisais une course pour aller à Rome, on va dire que je viens de trouver une bonne paire de baskets pour pouvoir commencer ma course. Mais je suis pas encore arrivé. Voilà, c'est très simple. En quelques mots, si vous voulez, on sait que rien n'est réglementé en termes de viennoiserie et de pâtisserie dans notre métier.
Oui, il y a beaucoup de viennoiseries industrielles, sans qu'on le sache réellement.
80% des viennoiseries vendues en France sont d'origine industrielle. Ça, c'est important à dire parce que c'est une triste réalité. Donc, j'avais entamé la démarche de rencontrer le député Roussel, qui est un député La République En Marche des Alpes-Maritimes, il y a quelques mois.
D'accord.
Pour demander à ce que celui-ci intervienne auprès de Bruno Le Maire pour rendre obligatoire la mention industrielle sur les viennoiseries. Bon, le gouvernement a dit non, c'est compliqué, il faut aller à l'Europe. Enfin, c'est pas un non, c'est il faut aller à l'Europe, c'est très long, machin. Pour l'instant, il ne l'envisage pas. Donc, si vous voulez, ça m'a un petit peu mis la colère, j'ai un peu réagi, je m'en cache pas, j'ai expliqué que je trouvais que ce gouvernement agissait de manière irresponsable envers les artisans, qu'on n'est pas pris en compte, c'est dégueulasse.
Vous avez écrit donc, un tweet, je crois, c'est ça, c'est un tweet
Oui, c'est ça. Voilà, j'ai fait une réponse sur Twitter.
Un petit peu enlevé,
Un petit peu, on va dire. Donc, le député Roussel est revenu me voir il y a 3 semaines. Il m'a dit, monsieur Roy, on vous a expliqué qu'il fallait aller à l'Europe. On n'est pas contre. Donc, il m'a expliqué que oui, ils vont monter une petite commission. Oui, ils vont essayer de tout faire pour légiférer pour nos métiers. Donc, ça, c'est un premier bon point. Mais ça va mettre des années. Donc, entre-temps, on est revenu sur quelque chose que j'avais proposé il y a 2 ans, car comme vous le savez, il existe la baguette tradition. Oui. Moi, il y a 2 ans, par le biais du député Ciotti, qui était intervenu auprès des députés, on avait demandé à ce que incorporer le croissant à ce décret. Pareil, c'était compliqué. À l'époque, j'étais seul. Mais aujourd'hui, on est 600, puisque comme vous le savez, je suis militant pour une association de la Charte Saint-Honoré. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est 600 boulangers qui le demandent. Et on ne demande pas...
Qui demande à ce qu'il n'y ait pas simplement une baguette qui soit reconnue comme produit artisanal, mais aussi toutes les viennoiseries qui les accompagnent, croissants, les chocolats.
L'idée, c'est d'incorporer toutes les viennoiseries à ce décret. Ouais. C'est faisable, on peut le faire. On a déjà rédigé les textes. Donc, ils s'en occupent en ce moment. On devrait avoir des réponses assez rapidement, on va dire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors c'est une petite avancée, une victoire peut-être pas, mais une première avancée parce qu'on va suivre de près l'évolution des choses, hein, parce qu'il faut pas nous en promettre, parce que ça fait 40 ans qu'on attend que nos textes évoluent sans qu'ils bougent. Donc aujourd'hui, on va vraiment suivre les choses pour aller au fond.
Merci beaucoup Frédéric Roy.
Merci
et puis bah, bon combat, la lutte continue donc pour la viennoiserie artisanale et c'est important. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis votre boulangerie à Nice. Bravo à vous et à bientôt dans les dents dans l'assiette.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 5h30 présenté par Marion Calais, suivi de l'interview actu. La France tremble. Deux séismes en deux jours. L'un dans la région de Montélimar, c'était lundi, et l'autre hier à Strasbourg. Mais que se passe-t-il? Ces deux tremblements de terre sont-ils liés? On va analyser tout cela avec mon invité, le sismologue Jérôme Van Der Voorde. Mais avant, passons à la météo avec Laurent Cabrol. Laurent, le temps s'améliore, mais pas les températures.
Les températures baissent, les nuages sont, disons, un petit peu moins menaçants. Et mais tout de même, ils sont présents hein, sous forme de brume et de nuages bas et de brouillard. Mais dans l'ensemble, les pluies seront un peu plus discrètes. Elles vont se concentrer cet après-midi sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne, les Ardennes et en soirée sur la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie. Et partout ailleurs, ce sera un ciel qui pourrait s'éclaircir et qui pourra s'éclaircir ici et là dans le courant de l'après-midi, au point que cette journée de mercredi ne sera pas forcément très très désagréable. Température maximale 5 degrés à Épinal cet après-midi, 9 à Lyon, 10 à Paris et Caen, 11 à Toulouse, 12 à Bordeaux et entre 15 et 17 près de la Méditerranée.
Merci Laurent Cabrol et à tout à l'heure. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal.
Europe 1, il est presque 5h30.
Ce sont des contrôles visuels qui sont ciblés sur l'état des équipements. Donc si vous vous regardez autour de vous, les câbles, les ancrages, toujours sur leur support.
Plongé ce matin dans la centrale de Cruas en Ardèche, les réacteurs ont été arrêtés après le séisme de lundi. Europe 1 a pu suivre les inspections en cours.
Des dégradations, des livres de François Hollande déchirés, une conférence de l'ancien président empêchée. Indignation dans la classe politique après les débordements lors des manifestations d'hier contre la précarité des étudiants.
La sortie agitée du dernier film de Roman Polanski, une des avant-premières parisiennes, a dû être annulée hier.
Et puis après ce journal, les sports au cœur de l'aide vidéo à l'arbitrage, ce sera avec Jérôme Lacroix.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle examinée mercredi prochain. La précision du ministre de l'Intérieur en déplacement hier soir au Teil, en Ardèche, commune la plus touchée par le séisme de lundi.
Et ce matin, après cette secousse, c'est au cœur de la centrale nucléaire de Cruas que l'on vous emmène. Les réacteurs sont à l'arrêt pour une inspection dite approfondie. Une inspection que Romain Oquet a pu suivre en exclusivité pour Europe 1. Écoutez.
Un escalier éclairé à la lampe de poche. En bas, un sous-sol de 10 000 mètres carrés rempli de dizaines de pylônes. Stéphane Brasseur, le directeur de la centrale, est notre guide.
Là, on est sous le réacteur.
Si vous allez sous les plots, on peut s'approcher, vous irez sous le réacteur. Donc tout l'îlot nucléaire est positionné sur des plots antisismiques. Donc l'accélération de la survenue d'un séisme n'est pas retransmise avec la même énergie.
À la surface, aucun dégât apparent n'a pour l'instant été détecté. Une trentaine d'agents EDF poursuivent les vérifications. Démonstration dans ce couloir.
Ce sont des contrôles visuels qui sont ciblés sur l'état des équipements. Donc si vous vous regardez autour de vous, les câbles, les ancrages, toujours sur leur support, les tuyauteries, vous m'en parliez, sont toujours accrochées, etc. C'est ça l'absence de dommages apparents. Et ça, on le fait sur les 4 réacteurs et dans tous les locaux.
La direction veut rassurer, les contrôles devraient se terminer aujourd'hui, avant un redémarrage vendredi. Une décision qui dépend de la stricte autorité de sûreté nucléaire. Cruas, Roman Oquet, Europe 1.
Léger tremblement de terre également hier à Strasbourg. Celui-là serait dû à la géothermie. On va en parler avec mon invité dans une dizaine de minutes, Jérôme Van Der Voorde, sismologue à l'Institut physique du Globe de Strasbourg.
Des débordements et une condamnation quasi unanime de la classe politique. Plusieurs manifestations contre la précarité des étudiants ont dégénéré hier, notamment à la fac de droit de Lille, où une conférence de François Hollande sur la démocratie a été empêchée, des livres de l'ancien président déchirés. Intolérable pour le ministre de la Culture. Pour le sénateur LR Bruno Retailleau, c'est le débordement de trop.
On voit bien qu'il y a une radicalisation, que le débat devient de moins en moins possible. Sylvia Nagasinski à Bordeaux, Mohamed Sifaoui à la Sorbonne, et là c'est François Hollande. Franchement, François Hollande, les bras m'en sont tombés. Je demande solennellement au gouvernement et à la ministre des Universités d'y mettre bon ordre. La ministre doit prendre des sanctions très rapidement pour préserver cette possibilité de ce que j'appelle la conversation civique, la dispute intellectuelle.
Bruno Retailleau, invité hier soir de David Doucan sur Europe 1. Et dans la soirée, Frédéric Vidal, justement, la ministre de l'Enseignement supérieur, a condamné les violences et les dégradations. La grille d'entrée de son ministère, notamment, a été arrachée.
130 morts et plus de 350 blessés, c'était il y a 4 ans, les attentats du 13 novembre au Stade de France, devant des terrasses parisiennes et dans la salle du Bataclan. Cérémonie aujourd'hui, devant tous ces lieux, à partir de 9h.
Europe 1, il est 5h33.
Un nouveau film et une nouvelle accusation de viol. La sortie controversée aujourd'hui en salle du dernier film de Roman Polanski.
J'accuse, récompensé à la Mostra de Venise avec Jean Dujardin dans le rôle de celui qui a permis de réhabiliter Alfred Dreyfus. Le film était présenté hier en avant-première dans plusieurs salles parisiennes et des féministes se sont invitées à l'une de ses projections au Champeau dans le quartier latin. Hélène Terzian y était pour Europe 1.
Polanski, violeur, public, complice. Slogan scandé par les féministes toute la soirée. Lorsqu'elles bloquent l'accès au cinéma, la situation se tend avec les spectateurs.
On est dans un état de droit. J'ai un billet, il y a un film que je voudrais voir. On m'empêche de le voir. Je suis indigné de cette situation. Vous êtes des voyous. Non, je ne suis complice de rien.
Des spectateurs qui ne comprennent pas la mobilisation des féministes.
Vous avez fait une enquête ?
On peut être poursuivi par la justice et être innocent.
C'est inadmissible ce qu'il fait Polanski. Mais on tombe dans l'obscurantisme, l'a empêché de voir un film.
On l'honore en tant que grand cinéaste. Sa vie privée, on s'en fout.
Noah, à la tête de la mobilisation, est écœuré.
On a envie de vomir, de voir des gens qui continuent à venir alors même qu'on leur jette à la figure la réalité qui est glaçante. C'est extrêmement grave.
Au bout d'une heure, les patrons calfeutrés dans le cinéma annulent la projection. Une victoire pour les jeunes femmes.
Et ben voilà, on a annulé la séance, on a obtenu ce qu'on voulait. Pas de gloire pour les violeurs. Bravo !
Hélène Terzian à cette projection donc finalement annulée dans le quartier latin à Paris et la société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs dont fait partie Roman Polanski se réunira lundi prochain pour la mise en place de nouvelles règles pouvant aller jusqu'à l'exclusion en cas de condamnation pour une infraction sexuelle.
Le jeu vidéo au service de la formation des infirmiers. En Nouvelle-Aquitaine, les étudiants utilisent désormais un casque de réalité virtuelle pour s'immerger dans certaines situations.
Oui, c'est une première en France. Reportage Europe 1 de Stéphane Place.
La prescription médicale est-elle conforme ?
Une voix qui guide cet étudiant de 3e année en plein exercice de transfusion sanguine, sa blouse blanche de futur infirmier sur les épaules, un casque de réalité virtuelle sur les yeux, une manette dans chaque main. Dianis est en immersion virtuelle dans la chambre d'hôpital.
Je suis en train de préparer le matériel pour passer la perfusion. Il n'y a pas le stress de faire une faute puisque c'est simulé, pas réel.
Les gestes sont accomplis sous l'œil vigilant de Marion Laurent, cadre de santé et formatrice à l'Institut.
Lui, il doit prendre les choses sur le plateau. Alors, tant qu'il n'a pas pris la bonne chose, en fait, le dialogue ne continue pas.
Est-ce que la recherche d'agglutinine irrégulière est conforme ?
Immerger les étudiants dans cette réalité virtuelle, un sacré plus pédagogique, explique la directrice de l'Institut bordelais de formation en soins infirmiers, Claire Rousoguet.
C'est une révolution dans le parcours de professionnalisation. Donc, on est vraiment dans une approche du patient qui est, non pas une première fois avec toutes nos peurs, mais qui va nous permettre d'appréhender au mieux cette première rencontre avec le patient.
Grâce à l'appui financier du Conseil régional, les 27 instituts de formation en soins infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine ont accès à ces simulations numériques. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Du jamais vu depuis plus d'un demi-siècle à Venise, marée haute d'une ampleur sans précédent, 1,87 m relevé, le plus haut niveau depuis 53 ans relevé dans la cité des Doges hier soir.
Qu'est-ce qu'elle est forte, hein ? Sans texte, en pure impro, c'était le journal de Marion Calais. À tout à l'heure, Marion.
Europe 1.
Dans un instant, le journal des sports de Jérôme Lacroix. J'attendais à ce qu'il soit lui aussi en totale improvisation, suivi de l'interview actu. Mais que se passe-t-il sous nos pieds ? Pourquoi est-ce que la Terre tremble-t-elle depuis le début de la semaine ? Lundi, c'était à Montélimar. Hier, c'était à Strasbourg. Est-ce que ces deux séismes sont liés ? On va analyser tout cela avec mon invité, le sismologue Jérôme Van der Woerde. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h37, l'heure du journal des sports.
À la une, Jérôme Lacroix, immersion au cœur de la VAR.
La VAR, Video Assistant Referees, l'aide vidéo à l'arbitrage. Ben oui, c'est vrai, on dit tout le temps VAR, mais finalement, moi, je me souviens.
Mais on dit le VAR ou
dire.
La VAR ?
Ben, je sais pas. La VAR, le VAR, j'entends un peu les deux. Moi, j'ai dit la VAR. Bon, c'est totalement arbitraire, c'est le cas de le dire. En vigueur dans le foot professionnel en France depuis peu, utilisé plus de 300 fois lors des 12 premières journées de Ligue 1 pour trancher donc certaines actions litigieuses, notre reporter Julien Froment a pu intégrer le centre opérationnel du système. Le lieu est tenu secret. Et les prises de décision ne sont pas si faciles, il a pu le constater. Vous entendrez son reportage dans la suite de la matinale avec Mathieu Béliard. Sur place, Julien Froment, il a recueilli cette confidence de Pascal Garibian, le patron de l'arbitrage français. Oui, le système comporte des failles. D'ailleurs, dimanche dernier, illustration, lors de Marseille-Lyon en championnat, le pénalty de l'ouverture du score marseillaise n'aurait pas dû être accordé. Il aurait dû être annulé. Un joueur marseillais avait fait main un peu plus tôt sur l'action. Mais l'image qui confirmait cette main était bien cachée, a concédé Pascal Garibian.
C'est un apprentissage, c'est cette maîtrise des images. Là, en l'espèce, la situation de pénalty sifflée a été contrôlée, analysée et pas remontée. C'est une situation complexe, un plan qu'il fallait trouver et que malheureusement qui a été vu bien trop tard.
Là, aujourd'hui au Stade de France, dernier entraînement pour les Bleus avant France-Moldavie. Demain soir, les Français pourraient obtenir leur qualification pour l'Euro 2020.
Le tennis et le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup a vraiment senti le retour sur terre.
Julien Beneteau, on vous le racontait hier, pied gauche dans le plâtre, le capitaine paye la fracture. Il s'est manifestement blessé en fêtant le titre mondial obtenu dimanche en Australie. Hier soir, c'est donc en béquille qu'il a péniblement traversé la cour de l'Elysée. Bah oui, toute l'équipe était invitée par le président Macron.
J'ai pas fait n'importe quoi non plus, c'est un pas de danse, voilà. Alors, danse avec les stars, ça va être très compliqué. Je suis mal retombé, on était dans un endroit, dans un grand salon, où il y a des grosses moquettes, ma chaussure s'est bloquée et mon pied a littéralement cédé et s'est retourné comme ça, et voilà, de manière assez improbable on va dire, mais bon, ça a été fait comme ça vraiment. J'aimerais bien vous dire que j'étais à 12 grammes et que je suis sauté de 3,50 m de haut, mais non.
Vous avez entendu, Julien. Attention, vous aussi sur le dance floor. Heineke Meyer, démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade français de rugby après la dernière défaite contre le Racing 92. Le Sud-Africain devait ramener le club de la capitale vers les sommets, mais il est actuellement dernier du championnat.
La personnalité du jour.
J'ai choisi Fabien Galthié, toujours du rugby. Le nouveau sélectionneur du 15 de France va dévoiler aujourd'hui la composition de son staff. Et il le fait depuis Montgesti, dans le Lot, le village où il a grandi. 330 habitants qui se préparent à recevoir toute la France du rugby.
Bah dis donc, quelle initiative. Ça fait un peu de route quand même. Hein. Merci beaucoup Jérôme Lacroix et à tout à l'heure.
Europe 1, il est 5h40.
Les courses avec les pronostics du quintet Thierry Léger. Thierry, ça se passe où cet après-midi ?
Direction Angers pour ce quintet qui va se courir sur la distance de 1600 mètres. Parmi les 16 partants, j'ai opté pour le numéro 12, Lacanche, qui réalise des survaleurs en terrain lourd et dont la parfaite condition physique est désormais certaine. On lui opposera son compagnon d'entraînement, le numéro 6, Espiritum, qui vient de jouer de malheur en dernier lieu à Longchamp dans un quintet similaire, en se retrouvant emmuré vivant dans la phase finale, alors qu'il avait les ressources nécessaires pour disputer les premières places. Ensuite, je vous conseille le numéro 8, Shielding, pour lequel son entraîneur Stéphane Labatte n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis Marseille. Et n'oubliez pas les deux frères, les numéros 3 Devanafucci et 4 Chiavafucci, indissociables. Enfin, les numéros 16 El Indio, l'As, l'Arnaud et le 2 Milfield compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 6, 8, 3, 4, 16, As et 2.
C'est noté. Merci Thierry Léger. Vos pronostics sont à retrouver sur notre site, évidemment, europe1.fr. À demain Thierry.
Europe 1, Julien Pierce.
La France tremble après la région de Montélimar lundi, c'est celle de Strasbourg hier qui a tremblé, séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. Pourquoi une telle activité sismique ? L'homme a-t-il quelque chose à voir avec ces tremblements de terre ? Pour en parler, Julien, vous recevez Jérôme van der Voorde, sismologue, chercheur au CNRS, actuellement en veille sismologique au RENAS, le réseau national de surveillance sismique de Strasbourg.
Bonjour Jérôme van der Voorde.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous qui êtes à Strasbourg, vous l'avez senti le séisme hier ?
Oui, tout à fait. Hein. C'est une heure de pleine activité. On était au cinquième étage, dans les bureaux là, et donc effectivement, on l'a ressenti assez fortement, oui.
Est-ce que il va y avoir des répliques ? C'est la question que je vous pose pour les Strasbourgeois, parce que ce séisme est un peu arrivé. Il n'y avait pas eu d'annonce. En fait, il n'y avait pas eu de. Il n'avait pas été anticipé d'une certaine manière.
Oui, ce séisme a surpris parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti comme ça un séisme sur la ville de Strasbourg. Mais comme tout séisme, effectivement, bon, il est de magnitude pas très fort, mais comme tout séisme, il peut Voilà, il est suivi de répliques. Hein, il était même précédé en fait de séismes beaucoup plus petits, mais qui n'avaient pas été ressentis par la population.
Comment vous expliquez ce séisme et surtout cette série on le disait en introduction, lundi dans la région de Montélimar, séisme assez violent, hein, en tout cas le plus violent depuis 16 ans en France, et hier donc secousse à Strasbourg. Est-ce que ces deux séismes sont liés ?
Non, il n'y a pas de lien entre séismes qui sont extrêmement distants et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein. Donc le séisme effectivement de Montélimar, hein, c'était un séisme de magnitude 5, donc bien plus fort. Hein, donc sur des structures tectoniques à l'ouest de la ville de Montélimar. Le séisme de Strasbourg donc, a lieu au nord de Strasbourg, hein, dans le quartier, enfin il est localisé dans le quartier de la Roberto, à l'est de Bischheim. Voilà, il se situe à quelques kilomètres au sud d'une activité géothermique en cours depuis un an, et donc voilà, au moins, il est possible qu'il y ait des liens entre ces choses-là.
C'est-à-dire, ça pourrait être dû à la main de l'homme, c'est ça ?
Donc la magnitude et le déclenchement du séisme, c'est des choses qui restent très difficiles à prévoir et qui sont pas prévisibles. Hein. Mais voilà, donc quand on injecte des fluides dans le sol, il est possible hein, de déclencher, en tout cas de changer hein, les équilibres dans les sous-sols et donc de déclencher des séismes. C'est des choses qui sont relativement fréquentes pour ce genre d'activité.
Alors je précise que l'entreprise hein, qui réalise ces forages dans la zone dit qu'elle n'y est pour rien, hein, que l'épicentre était à 5 km de leur chantier et qu'il était de toute façon à l'arrêt depuis 5 jours. Alors pour revenir simplement au séisme de lundi, celui qui a secoué le sud-est de la France, est-ce qu'il vous a permis de découvrir une nouvelle faille, ou en tout cas, visiblement, cette région n'était pas réputée pour être très sismique ?
Disons que le séisme a eu lieu dans une zone de sismicité modérée, donc c'est une commune, une région voilà, qui est repérée hein, dans la carte du risque sismique en France comme une région donc pouvant produire des séismes et des séismes de magnitude 5. Alors ça fait là aussi dans cette région de Montélimar très longtemps qu'il n'y avait pas eu un séisme de cette magnitude-là. Donc il est important à ce titre. Alors depuis le déclenchement de ces séismes, des équipes hein, de Géosciences Azur et de Ister à Grenoble donc se sont mobilisés avec des stations sismologiques pour les installer au-dessus de la zone qui a tremblé pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, bon, il y a des incertitudes sur la localisation précise du choc principal et de la faille qui a rompu. Et donc, c'est des choses qui m'ont travaillé en ce moment.
C'est dû à quoi ? C'est la plaque tectonique africaine qui pousse la nôtre, c'est ça ?
Alors, à très grande échelle, oui. La plaque Afrique remonte est en collision avec l'ouest de l'Europe. Hein, mais où cette collision se résout et quelles sont les failles qui vont se mettre en activité, c'est très difficile à dire. Il est possible hein, que ce faisceau de failles des Cévennes, hein, qui se termine dans la vallée du Rhône du côté de Montélimar, soit effectivement un des candidats possibles pour le séisme qui a eu lieu.
Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Jérôme van der Voorde, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes sismologue, chercheur au CNRS et à l'Institut du Globe à Strasbourg. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Omblin Roche, l'histoire méconnue derrière une chanson ou un artiste. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Dès 9h ce matin, les premières commémorations au Stade de France, 4 ans après les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Patrick Balkany va-t-il obtenir sa remise en liberté ? Décision aujourd'hui de la Cour d'appel de Paris après sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale. Nouvelle étape dans l'enquête lancée en vue de la destitution de Donald Trump. Premières auditions publiques aujourd'hui retransmises à la télé. Et puis l'annulation hier soir d'une des avant-premières parisiennes du film J'accuse de Roman Polanski qui sort aujourd'hui en salle, le réalisateur accusé par une photographe de l'avoir violé en 1965. 75.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
1975, je corrige a posteriori. Il est bien dommage, les amis, que vous ne puissiez point la voir, car Omblin Roche a le physique de sa voix. Elle est tout simplement splendide.
Ouais,
c'est la
journée.
Partition, ce qui se cache derrière une chanson ou un artiste. Et aujourd'hui, Omblin, vous nous racontez les débuts d'un groupe qui a laissé une marque, dites-nous, indélébile dans le répertoire français des années 80 et début 90. Mm-hmm. Il s'agit de Niagara.
Oui, Julien, nous sommes en Bretagne, l'instigateur. C'est Daniel Chenevez. Il remarque dans une rue de Rennes une fille aux cheveux bleus coupés courts avec un os dans l'oreille. Muriel Moreno.
Et le groupe s'appelle à l'origine L'Ombre Jaune.
Oui, en référence à Bob Moran, avant d'être rebaptisé Niagara, comme le film avec Marilyn Monroe et avec dans la bande aussi le bassiste José Tamarin. Et c'est grâce au ministère de la Culture et à une opération qui permet de financer les débuts de jeunes groupes français, l'opération Coup de Talent dans l'Hexagone, que Muriel, Daniel et José entrent en studio.
Et la musique, on va dire que ça rapproche.
Oui, Muriel et Daniel, complices sur scène, partagent aussi leur vie en coulisses.
Que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule.
Alors, c'est le lot de tous les jeunes groupes. Hein. Niagara arpente les routes bretonnes en l'occurrence, passe par les transmusicales de Rennes. Ne dit jamais non à un concert, même quand il est question de se produire dans des petits clubs.
Et dans des lieux même improbables, Julien, où le groupe partage la réserve qui sert de loge avec des stripteaseuses. Le trio se fait remarquer grâce à son originalité, son goût pour le mélange des genres, des rythmes afro-cubains, quelques touches de funk, des balades planantes et une musique pop résolument énergique.
Vient enfin la signature du premier contrat.
Avec la maison de disques Polydor et viennent les premiers enregistrements.
C'est exotique. Oui. Ça a été l'un des premiers sujets de conversation entre Muriel et Daniel quand ils se sont rencontrés. Et c'est la couleur musicale des débuts de Niagara.
Oui, l'exotisme Cheeky Boom et le premier 45 tours. Un succès fulgurant en 1985 et avec un clip à 500 000 de francs, 2 jours de tournage dans un décor de cantina mexicaine. La chanteuse de Niagara en cowboy témoigne avoir perdu 2 kilos. Mais le pire, ce sont les boucles d'oreilles qui pèsent une tonne. Et tendez l'oreille, la vôtre. Étienne Dao fait partie des chœurs. Voilà, pour les débuts de Niagara sur Europe 1 avec Muriel Moreno, avec Daniel Chenevez et José Tamarin, le bassiste qui nous a quittés le 22 octobre dernier. Il avait 68 ans. Et que sont-ils devenus ? Un petit mot. Rapidement, pour dire que Daniel Chenevez, lui, continue dans la musique, il fait des réalisations. Et alors, c'est Muriel Moreno qui est redevenue Muriel Laporte. Elle a été DJ après Niagara. Ils se sont séparés au début des années 90, faut le préciser quand même. Ouais. DJ, puis après, elle a fait de la photographie, de la réalisation. Et aujourd'hui, elle est prof de yoga et de pilates en région parisienne. Elle est redevenue anonyme, dirons-nous.
D'accord. Très bien. Merci. On la conseille donc. Je ne sais pas.
Bah oui, Niagara, en plus, elle doit chanter. Ça doit être parfait.
Merci beaucoup, Omblin Roche. La partition d'Omblin, c'est chaque matin sur Europe 1. Bonjour, Christophe Ondelat.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Il est bientôt 6h et je mets en ligne mon histoire du jour sur votre application de podcast. Aujourd'hui, l'histoire d'Erwan Larère, rescapé de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Un témoignage unique, sincère et absolument non conventionnel. Il n'y a plus d'heure pour écouter On de la traconte.
Merci Christophe. Plus que quelques minutes donc à attendre pour découvrir votre histoire du jour sur Europe1.fr ou sur votre application de podcast.
Europe 1.
Dans un instant, votre matinale se poursuit avec l'homme qui roule des airs, Mathieu Béliard. Et avec vous, au 39-21, venez réagir à l'actualité. Vous avez la parole sur Europe 1. Très bon réveil à tous.